La chute de Miss Topsy. Chapitre 2. Le printemps arriva. Pellard, qui sentait pousser en lui des besoins plus subtils d'élégance, remplaça sa couturière par une modiste et se déclara parfaitement heureux. Frémy, que les premières chaleurs tourmentaient, fit quelques rencontres dans les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées étaient sa promenade favorite. Tout seul ou avec son compagnon, il s'y rendait presque chaque soir. Quand il était seul, après avoir erré un moment, il échouait sur une chaise et restait à regarder passer le monde jusqu'à ce que la fraîcheur du soir le fît frissonner. Des regrets confus s'agitaient en lui. Il songeait à sa fortune perdue, et parfois l'envie le mordait au cœur quand il voyait un équipage passer dans un nuage de poussière. Lorsque Pellard était avec lui, le poète ayant besoin de mouvement, il descendait l'avenue jusqu'au rond-point, la remontait, tournait autour des massifs, stationnait devant les chevaux de bois. Parfois, en passant devant un café-concert, Pellard s'arrêtait pour regarder les jupes de couleur qu'on apercevait sur l'estrade et disait « Si nous nous asseyions là, nous entendrions la musique ?» Mais Frémy l'entraînait loin de ce tapage qui lui faisait mal au nerf. Un samedi soir, Pellard s'arrêta devant le cirque d'été. « Je voudrais pourtant bien voir ça une fois, » fit-il. « Entrons, » répondit Frémy. « J'aimais beaucoup les tours et les clowns autrefois. » Et il se dirigea vers le bureau des premières. Le poète le retint par le bras. « Mazette, ça coûte 3 francs, mon petit. »« Eh bien, pour une fois. »« Non, non, Eugénie dîne avec moi demain. Ça déséquilibrerait mon budget. » Frémy céda encore sur ce point, et ils gravirent l'étroit escalier qui conduit au gradin supérieur de l'amphithéâtre. Il était de bonne heure. La salle, sauf aux secondes, était presque vide. Les lueurs des lustres encore baissés éclairaient faiblement la piste où des valets en costume terne égalisaient le sable. Les deux amis achetèrent un programme et s'assirent. « Tiens, dit Frémy, il y a des débuts ce soir. Une écuyère, Miss Topsy, pirouette et saut de ballon. Ça sera toujours la même chose. »« Topsy, reprit Pellard, c'est un nom que j'ai vu dans un roman de Ponson du Terrail. » Et il se mit à raconter une histoire de bohémien, prenant plaisir à fouiller dans ses souvenirs de lycéens qui lisaient en cachette des livres prohibés. Cependant, des gens divers, surtout des familles avec des bébés endimanchés, s'installaient sur les banquettes de velours rouge des premières. Les musiciens, arrivant l'un après l'autre, sortaient leurs violons de leur boîte ou ajustaient leurs flûtes. Il se produisit ce murmure dissonant des instruments qu'on accorde, et l'orchestre se mit à exécuter les 2 morceaux à l'aide desquels il endort l'impatience des spectateurs trop tôt venus. En même temps, les robinets du gaz, ouverts, faisaient subitement monter la flamme dans les lustres qui, à travers le miroitement de leur verroterie, étendirent la nappe de leur lumière jaune sur le sable mat du manège. « Nous avons eu une bonne idée de venir ici, » dit Pellard, qui s'égayait de tous ses préparatifs. Les écuyers firent reculer les quelques habitués qui stationnaient déjà dans le couloir d'entrée et ouvrirent les barrières. Un cheval sans selle arriva au galop, puis un gamin en juste corps bleu, la tête toute bouclée, entra en faisant le saut périlleux et commença son travail de petite voltige. « Il est très fort, ce crapaud-là, » observa Pellard, qui n'avait jamais vu d'acrobate que dans les foires autrefois. L'orchestre se tut pour une entrée comique. 3 clowns, le bonnet pointu tombant à chaque instant de leur tête rasée, le visage enfariné, la souplesse de leur corps dissimulée par des costumes amples et tout bariolés, se tordaient la bouche en grimaces grotesques, débitaient des calembours avec un fort accent anglais et culbutaient et se roulaient dans le sable. Tandis que l'Auguste, conspué par eux, son gilet blanc sali, son habit noir fripé, sa perruque tombante, allait de l'un à l'autre en agitant ses mains dans des mouvements comiques, toujours repoussés. De temps en temps, à quelque chute bien réussie, à quelque gifle plus bruyante, un rire secouait l'amphithéâtre. Celui des petits enfants se distinguait dans le tapage et se prolongeait, argentin, comme un son de cloche. Frémy avait suivi les exercices des clowns avec une attention presque sérieuse. Quand ils se retirèrent, toujours culbutant, il se mit à les applaudir de toutes ses forces. « Mais applaudissez, applaudissez donc » dit-il à son voisin, qui laissait pendre ses mains sur ses genoux. « Croyez-vous que ces gens-là ne méritent pas vos bravos ? Ils sont très forts, et songez à toute l'imagination qu'ils dépensent. On veut bien admirer un monsieur qui se torture le cerveau pendant des mois pour accoucher à la fin d'un bouquin à couverture jaune, ou un qui salit une belle toile avec de vilaines couleurs. La belle affaire. Tout le monde peut être barbouilleur ou gens de lettres, tandis que... » « Permettez, permettez, » interrompit Pellard, étonné de tant d'animation. « Je comprends encore que vous vous extasiez devant des tours de force, devant des poses plastiques. Mais des paillasses, c'est bon pour les enfants. » « Vous ne voyez donc pas que ces paillasses trouvent chaque soir du nouveau, cette chimère après laquelle, vous autres artistes, galopez sans jamais l'atteindre ? Et il faut qu'ils puissent tout en eux-mêmes. » L'imagination pour inventer leurs tours, qui n'ont l'air de rien et sont très difficiles, la force pour les exécuter, le sang-froid pour risquer leur peau sans qu'il y paraisse. Et pour réussir, ils n'ont que leur corps, rien de plus. C'est avec leur corps qu'ils jonglent. Croyez-vous que ce soit moins difficile et moins méritoire que de jongler avec des mots, des notes ou des couleurs ? Pellard secoua la tête, blessé dans ses idées par cette admiration pour des saltimbanques. « Vous ne me persuaderez jamais, murmura-t-il, que ces gaillards-là sont les égaux des poètes. » Un homme en maillot, les reins sur un tremplin, les jambes en l'air, travaillait avec ses deux enfants. Il les faisait tourner tour à tour comme le tonneau classique ou comme la croix de Malte, et les petiots, le corps raidi comme une barre ou roulé en boule, ou les jambes écartées et les pieds dans leurs mains, retombaient tantôt debout, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, sur les pieds de leur père, puis rebondissaient et retombaient encore, et rejetés sur le sable, revenaient tout suant et tout souriant, après une révérence, à leur travail. « Non, décidément, je ne trouve pas ça drôle, » fit Pellard. « Au bout de 10 minutes, on en a assez. C'était bon quand nous avions 7 ans. Encore aurions-nous mieux fait d'apprendre à lire plus tôt. » Frémy haussa les épaules et répliqua un peu amer. Ça nous sert à grand-chose de savoir lire. Ça donne des maux de tête et des maux d'estomac, voilà tout. Mais regardez donc ce gaillard-là. Quel corps, quel muscle! Et nous serions ainsi bâtis, nous, si le travail inutile, à dos courbé sur les dictionnaires auxquels on a condamné notre enfance, ne nous avait pas émaciés. Nous aurions pu être forts, pauvres gringalets que nous sommes. Être forts, c'est-à-dire aptes à jouir de la vie de toutes les façons, sans fatigue, sans lassitude, sans maux de cœur, sans gravelle. Croyez-vous que ce monsieur-là n'est pas plus heureux que nous ? Il s'expose chaque soir à rompre le cou à sa famille, mais il n'y pense pas. Il est prédestiné à mourir d'un coup d'apoplexie. Mais c'est la mort la meilleure qu'on puisse rêver, et son métier lui rendra jusqu'à ce suprême service de le faire disparaître sans douleur. On l'applaudit, ça lui fait plaisir. En sortant, il soupe de bon appétit et il a chez lui une femme qui l'attend et qui l'aime parce qu'il a du tempérament. Tandis que nous... Comme il achevait cette tirade, Pellard le regarda et, constatant la pâleur exagérée de son visage, la maigreur de son corps étiré en membres tout fluets, il songea qu'il n'avait pas tort, pour son compte. Mais lui pouvait penser autrement, car il n'était pas dans le même cas. Et il murmura. « Moi aussi, je mange de bon appétit, et j'ai du tempérament. » Cependant, la première partie du spectacle se terminait par des exercices de haute école. Pendant qu'on plantait l'écriteau qui annonce l'entracte, les deux amis regardèrent la salle, à laquelle ils n'avaient encore prêté qu'une médiocre attention. Elle était bondée. Parmi les redingotes, les jaquettes, les habits noirs, les toilettes claires des filles et leurs chapeaux fleuris ou empanachés de larges plumes mettaient des taches gaies. Et des parfums subtils montaient, se mélangeant à la forte odeur des écuries. Un mouvement se produisit dans le public. Il y eut des étincellements de bijoux, en même temps que la soie et le satin chatoyaient au reflet du gaz qu'on baissait un peu. Comme Frémy promenait complaisamment son regard sur ces élégances, il aperçut un visage de connaissance. C'était une actrice des variétés, Antonia, qu'il avait connue autrefois et qu'il avait aimée. Depuis ce temps-là, Sa taille s'était un peu épaissie, mais il n'y songea guère et se rappela son boudoir si parfumé, toutes les douceurs de ses caresses. Et autour de lui, les marchands glapissaient. « Orgeat, sucre d'orge, de la Valence, le courrier du soir, demandez le courrier du soir, le double assassinat du faubourg Montmartre !»«
Vous ne sortez pas ?» lui demanda Pellard. « Vous ne venez pas prendre un boc ? Y tenez-vous beaucoup ? Moi, j'aimerais mieux rester. » Le poète n'insista pas. Antonia restait à sa place, se faisant de l'air de temps en temps avec un éventail rouge. Tant que dura l'entracte, Frémy ne la quitta pas des yeux. Il cherchait à distinguer son fin profil d'arlésienne, dont les traits s'effaçaient dans la buée lumineuse du gaz. Il se rappela qu'elle avait un petit signe noir sur l'épaule, les pieds menus et roses comme des pieds d'enfant, qu'il devenait tout pâle chaque fois qu'il sonnait à sa porte. Avec quel mouvement câlin, quelle souplesse serpentine elle nouait ses bras derrière son cou. D'autres détails encore. Puis il regarda l'homme qui l'accompagnait. C'était un gommeux fade et las qui passait son temps à assujettir un monocle sur son œil droit. Alors le regret poignant des choses passées l'envahit et il se mit à rire d'un petit rire nerveux et saccadé qui le secoua.
« Qu'est-ce qui vous prend ?» lui demanda Pellard.
Il lui raconta son histoire avec Antonia, qu'il parvint à lui désigner. Le poète resta rêveur. Les actrices lui semblaient encore des créatures particulièrement désirables. Il n'avait eu que deux fois en sa vie des billets de faveur. Peu à peu, les spectateurs rentraient, enjambaient les banquettes, se tassaient dans les couloirs. Le spectacle recommença. Pellard bâillait, ennuyé par les exercices d'un équilibriste japonais qui jonglait avec mille choses obéissantes et finit par faire danser autour de lui un long ruban rose qui se tordait comme un énorme serpent prodigieusement agile. Frémy demeurait distrait, comme rappelé par les lointains de sa vie. Mais son attention se réveilla pourtant à l'entrée de Mistopsy, dont les premiers débuts étaient annoncés sur l'affiche. On avait un peu parlé d'elle, et quand elle entra, il se fit dans le public un certain mouvement de curiosité. Elle salua comme toute salue, en se tournant des deux côtés et en faisant de ses bras cerclés de bracelets d'or des gestes arrondis. Ses cheveux étaient poudrés, elle portait un costume rose et bleu tout enrubanné comme les bergères Pompadour en porcelaine de Saxe. Elle avait la taille assez élégante et les jambes bien faites, quoique maigres. Ses épaules semblaient un peu trop carrées. Des secondes, on distinguait mal ses traits. Sa grâce tranquille n'avait rien de troublant. L'orchestre jouait pour elle un de ces quadrilles du répertoire Markovski qui vous font rêver à la joie avinée et bruyante des fêtes de banlieue, où le cuivre ronfle et glapit et couvre de ses éclats les raclements des violons et les sifflements des flûtes. Elle n'en gardait pas moins, malgré encore les difficultés de son travail, une expression de calme pleine de charme, ce certain air de supériorité ou d'indifférence qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est bien sûr de soi, et qui donnait à ses exercices, fort ordinaires, un attrait nouveau. De la fine pointe de ses pieds, qui glissait sur une broderie de fleurs roses, elle effleurait à peine la selle plate. Son corps tournait, ses jambes se mouvaient rapides, et dans l'envolement de sa jupe rose, tandis qu'elle grandissait ou diminuait selon qu'elle passait devant les deux amis ou de l'autre côté de la piste, on eût dit un grand papillon très léger. Quand elle sautait les ballons, pendant une seconde, elle semblait suspendue dans le vide, les jambes repliées et agitées comme en des vibrations. Puis, des débris de papier restant attachés à ses épaules ainsi que de petites ailes, elle retombait à genoux pour rebondir encore, avec des élans souples, jusqu'à ce que le public, enthousiasmé par le vol de ce corps élastique, éclatât en applaudissements. Lorsqu'elle descendit de cheval et salua de nouveau, elle fut rappelée par de longs bravos. Frémy applaudit de toutes ses forces, et Pellard, cette fois, l'imita. « C'est une bien jolie femme, lui dit-il. Qu'en pensez-vous » « Oui, répondit Frémy d'un air distrait. » Il était tout pâle. Des sentiments nouveaux s'agitaient en lui. Jusqu'à ce jour, ses sens étaient comme endormis dans des amours de hasard. Et voilà qu'il s'éveillait tout à coup, excité par ce piment de la vigueur, de la grâce, de l'adresse, de la bravoure réunie dans une créature à l'air frêle et svelte autant qu'une jeune fille élevée en serre chaude. Une irrésistible sympathie compliqué de curiosité singulière, l'attirait vers cette écuyère dont il n'avait pas même distingué les traits. Dès qu'elle était entrée, il avait senti courir en lui le frisson d'anxiété qui secoue les débutants, craignant pour elle une appréhension paralysante, un de ces 1000 accidents si fréquents qui brisent une carrière, l'injustice du public toujours arbitraire dans ses jugements. Et un instant, il avait vu, comme elle les voyait sans doute, les têtes des spectateurs penchées en avant se confondre pour former une masse compacte, houleuse, menaçante comme un ciel gros d'orage. Puis, à mesure qu'elle passait et repassait dans le manège, qu'elle triomphait de toutes les difficultés l'une après l'autre, qu'elle gagnait visiblement la sympathie du public, il se rassura, comme elle se rassurait peut-être. Quand il entendit éclater des applaudissements, clairsemés d'abord, son cœur se gonfla de courage. Lorsque le succès fut certain, il partagea l'enivrement de la bataille gagnée. Elle avait quitté la piste. Le clown Pic montrait un âne dressé. On riait. Frémy suivit d'un œil distrait la fin de la représentation. Les 10 chevaux en liberté de Master Freeze, qui manœuvraient avec une étonnante précision, et le fameux saut du cintre, pendant lequel le public haletait. Misao se relevait à peine et se mettait à courir sur un filet au milieu des bravos en envoyant des baisers dans toutes les directions, que l'orchestre attaqua la marche finale. « Allons voir la sortie, » dit Frémy. Pélard le suivit, docilement. Ils virent passer Marie-Laure, qui disparut dans une voiture de maître. La foule s'écoula peu à peu. « Qu'attendez-vous ? » demanda Pélard à son ami. « Restons encore un peu, » dit Frémy. Enfin, Miss Topsy passa. Elle était enveloppée dans un manteau noisette. Une femme mûre, grande, sèche, guindée, l'accompagnait. « Allons à ma bille, » dit Frémy. Pélard se récria. « Vous êtes fou ! Ça coûte 10 francs d'entrée. Je vous invite. » Quelques couples dansaient, les hommes se trémoussant, les femmes levaient la jambe. D'autres erraient dans les bosquets, riant ou quelquefois penchés l'un sur l'autre comme de vrais amoureux. Pélard admirait le luxe des toilettes, l'étalage des bijoux et les effets des glaces qui, placés partout, agrandissaient le jardin à l'infini, montrait d'innombrables becs de gaz et multipliait les promeneurs. De temps en temps, il s'arrêtait, et suivant des yeux quelques jupons clairs qui passaient avec un lent balancement, il s'écriait, jurant par enthousiasme, « Nom de Dieu, la belle fille !» Ils se promenèrent longtemps, puis Frémy proposa de s'asseoir et de prendre des cherry cobbler. Comme Pélard tâtait sa poche d'un air inquiet, il lui dit, « Ne vous inquiétez pas de ça. » « Vous avez donc gagné un gros lot ?» fit le poète. « Vous ne vous refusez rien aujourd'hui. »« Ah, mon cher, » répondit Frémy, « voilà 4 ans que je me prive de tout. Il me reste une pendule en vieux Sèvres qui vaut au moins 500 ou 600 francs. Je la vendrai. » Et il aborda 2 filles qui passaient devant lui.